Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calade, ravi de vous retrouver pour passer une petite heure ensemble sur les ondes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 10 mai 2022, il fait agréablement beau dans le Beaujolais, étonnamment chaud également puisqu'on attend des températures pouvant monter jusqu'à 26-27 cet après-midi. Dans notre émission du jour, nous avons rendez-vous avec, comme chaque semaine, le coach qui n'hésite pas à nous donner son point de vue sur toutes sortes de choses. Et puis également avec notre libraire caladois pour un petit moment littéraire. Et avant ça, on va s'intéresser à un collectif d'artistes de la région. Ils sont installés à Cré dans la Drôme. Ils s'appellent Doux Mantra Records. C'est un regroupement de musiciens qui fait plein d'autres choses. On va parler de leur travail dans quelques minutes. Avant ça, pour se donner une petite idée de ce que font les membres de Doux Mantra Records, voici un morceau interprété par deux rappeurs du collectif, Cheetah Flowers et Young Neko, sur une instru d'un autre musicien du collectif, Lucio Suzy, puisque chaque titre de l'EP est composé avec l'aide d'un membre du collectif différent. Et pour finaliser le tout, la pochette du CD est signée par un autre membre du groupe, Doux Mantra Records. Vous l'aurez compris, ils savent mettre les talents de chacun au service de leur projet artistique. Le titre qu'on va écouter, ça s'appelle Above, et c'est donc interprété par Cheetah Flowers et Young Neko. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous.
You make me mad and sad. Baby, I can't call it bad. But instead, I'm just glad. Instead, I'm just glad. Loneliness is being content with less. A woman of power in the hands of a robber. I'm feeling blue cause nothing happened. I'm feeling gloomy cause I'm slacking. I'm searching the rhyme, you're searching the crime. It's bedtime and you're sublime. Maybe I'm full time, so make me shine. And maybe pour some wine. It's so hot getting the vibe, exactly like you describe. It's so hot getting the vibe, exactly like you describe.
I remove my glove and confess in my love. I know it's rough and above. Maybe I can't call it bad. But I'm beloved and you're sorrow. But I'm beloved and you're sorrow. But tell it to by tomorrow. But baby, I'm so narrow. Shook a look at how to help you. I put a face to my kin. Shook a look at how to help you. I put a face to my kin.
Hey, hey, I'm a boy, we're a boy. Ain't no purse, but we sure. Cause we were way too murdered. I saw this bitch. I would say that we born like a boss. We're born like the low bitch. Pretty, pretty sure that AZ is a boy, yeah. Boy, yeah. I can tell you know that I would die for.
Flowers accompagné de Young Neko, sur un morceau qui s'appelait Above et c'est plutôt joli. Ils sont membres du label Doux Mantra Records.
Ensemble sur Calade.
On retrouve dans Ensemble sur Calade deux fondateurs d'un label musical Doux Mantra Records. Avec moi, Colin et Florent. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Doux Mantra Records, j'ai dit label musical, comment est-ce que vous expliquerez ce que c'est?
Alors, effectivement, label musical, c'est quelque chose qui nous colle un peu aux pattes, surtout avec le nom qu'on a, quoi.
Ouais.
Et on est un peu en évolution constante, si tu veux, donc on est plus dans la situation du couteau suisse artistique maintenant. Mmh. Et donc, on se trouve plus dans le collectif d'artistes, slash boîte de production, si tu veux.
Ouais.
Et donc voilà. Sur le thème de la musique, en gros.
Et collectif d'artistes, ça représente à peu près combien d'artistes justement qui sont réunis là-dedans?
Ça fait quoi, une dizaine à peu près, même plus que ça.
Et donc ça a commencé comment, Doux Mantra Records? Je crois que c'est assez jeune, mine de rien, ça date de 2020, si je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est ça.
Ça a commencé comment alors?
Écoute, ça a commencé donc la petite histoire. Donc Tom et moi, on était à la fac ensemble et on faisait du son ensemble. Donc on jouait pas mal de musique. Je l'ai vu arriver avec une guitare et forcément, voilà, les petites discussions de geek, tu vois. Ah, tu fais de la musique, tu vois, des choses comme ça.
Ouais.
Et puis, et donc on est partis tous les deux étudier donc, en Asie. En fait, lui, il est parti à Taïwan et moi, je suis parti en Chine où j'ai vécu pendant 6 ans. Et on faisait des projets à distance avec Tom, en fait, donc avec... Via internet et quand je revenais en France on enregistrait des choses et puis au bout d'un moment ça a été le truc de base de se dire au lieu d'attendre de se retrouver dans un label qu'on a l'impression que ça va jamais nous arriver, autant monter notre propre structure et financer nos propres projets. Puis on vit dans un beau pays, mine de rien, au niveau subvention, donc voilà. Et l'idée, c'était de retrouver un peu des artistes qui ont plusieurs facettes, autant artistiquement parlant que en termes de technique, tu vois. Par exemple, tu prends Colin, il est graphiste à côté, mais c'est aussi un musicien. On a beaucoup de gens qui ont ces deux facettes, en fait, dans le label. Mm. Et donc, tout s'est un peu construit au fur et à mesure comme ça. Donc, voilà. Donc, on a commencé donc, en 2020, quand j'étais encore en Chine. Donc, on gérait ça à distance. Donc, c'était surtout au début Tom, l'autre cofondateur, et donc, avec son projet artistique qui s'appelle El Tat.
D'accord.
Et Colin, qui gérait ça ensemble un peu, et donc on gérait tout ça à distance, et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé un peu, quoi.
Avec un objectif déjà en tête, c'était l'idée d'avoir une organisation pour soutenir vos projets artistiques, c'est ça?
Alors ouais, c'était aussi mêlé parce qu'on avait tous un peu des compétences un peu diverses, comme l'a dit Flo, on était un peu couteau suisse. Respect. Donc par exemple, pour ma part, du coup, je fais du graphisme et du montage. Et l'idée de Tom et de Flo, c'était de mêler en fait l'audiovisuel, vraiment le côté visuel à la musique, parce qu'on savait que ça allait migrer vers une forme comme celle-là, en fait. Et du coup, on s'est dit, bah pourquoi pas faire nos propres clips, nos propres designs, et vraiment mêler, ouais, le visuel à la musique. Et du coup, on est plusieurs dans le collectif à avoir ces compétences-là, qui sont le graphisme, montage, vidéo, et puis aussi beaucoup de sons. Enfin, je pense notamment à Robin Tortonez, qui est de Lyon d'ailleurs, et qui est ingénieur son, Arthur Prognier, qui est réalisateur, et qui pareil, fait de la vidéo, du design, qui est designer aussi. Donc ouais, on a voulu monter ça sous une forme vraiment audiovisuelle, quoi, assez, ouais, complète.
C'est un projet qui est complètement dans l'air du temps. Enfin, ça a commencé à distance, j'ai l'impression, chacun à un bout du monde. Et vous, aujourd'hui, vous utilisez beaucoup tout ce qui est technologie audiovisuelle. J'ai l'impression que tous les outils modernes, vous les maîtrisez super bien, non?
On essaye, en tout cas.
Non, il dit ça parce qu'il est modeste. Non, ils ont...
Non, mais c'est vrai que c'est marrant comment ça s'est mis en place, parce que Flo, autant toi, tu étais en Chine, Tom, il était en France, nous, on était encore au Canada avec Arthur Prognier, que j'ai rencontré là-bas à l'école de cinéma et télévision de Québec. Et on s'est tous contactés comme ça un peu à travers le monde en se disant, bon, on se connaissait directement ou pas, et puis on s'est dit pourquoi pas lancer ce projet-là tous ensemble, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que oui, on a dû faire à distance, et on le fait encore un peu, mais on a eu l'occasion de se retrouver justement autour de plusieurs projets, ouais.
Et, ce qui vous réunit, c'est des rencontres qu'il y a eu où, et des affinités qui se sont formées, ou il y a aussi des liens artistiques, des choses qui vous touchent? Parce que pour avoir écouté ce que font tous les artistes qui sont avec vous, c'est très éclectique et ça peut aller dans beaucoup de directions différentes. C'est quoi les points communs des artistes de Doom Mantra Records?
C'est une super question. Bravo. Non, écoute, je pense que en fait, quand tu commences la musique, et je pense quoi que ce soit de créatif, tu as tendance à te bloquer dans un style parce que c'est rassurant. En fait, tu vois, t'as tes repères en fait là-dedans.
Ouais.
Et on s'est tous plus ou moins rencontrés parce que on se connaissait via des projets artistiques. Enfin, moi, donc, j'ai rencontré le reste du label via Tom, qui a des projets artistiques et tout ça. Et je pense que même si on fait des choses qui sont différentes à un moment, en fait, dans notre démarche et dans la façon dont on produit ou on applique certaines choses au sein de la structure, il y a notre amour de la musique et de la création, en fait, en règle générale, qui nous rejoint. Et maintenant, quand j'écoute le catalogue du label, en fait, je ne suis pas du tout perdu dedans parce que je vois qu'il y a une même intention en fait, qui traverse tous ces morceaux-là, en fait, même si on est dans des styles différents. Quoi.
Il y a une cohérence, effectivement, c'est vrai, dans ces artistes.
Je vous coupe, excusez-moi, mais juste, faut le dire aussi par rapport au mélange qui peut se faire entre les artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des productions donc en MAO pour certains autres artistes. Il y a eu quand même beaucoup de crossover et de featuring qui ont été faits entre les artistes. Donc, on arrive quand même pas mal à mélanger les styles. Et au début, on était tous un peu dubitatifs à ce niveau-là. Et au final, en fait, on s'est tous trouvés dans le collectif à pouvoir faire des choses un peu différentes de ce qu'on fait et même ramener nos influences respectives. Donc, franchement, il y a une cohérence qui s'est créée même dans ce qu'on a sorti.
Il y a beaucoup de collaborations, effectivement. Quand on regarde les pochettes des EP, quand on regarde derrière les crédits, on retrouve des noms régulièrement qui font partie de votre collectif.
Exactement.
C'est ce côté couteau suisse aussi, où un musicien peut faire un design, etc.
C'est exactement ça, en fait. C'est vraiment, en fait, c'est ça que j'essayais de te dire au début. C'est vraiment, je pense qu'on a commencé à s'accorder au niveau de notre sensibilité. C'est là où on a trouvé un peu quelque chose de commun, en fait. Parce que autant j'ai pu travailler sur des projets qui ne me parlaient pas totalement artistiquement, et Colin aussi. Enfin, tous, on a essayé des choses, en fait. Et je pense que c'est cette liberté que ça nous apporte de pouvoir tester des choses dans un contexte un peu en sûreté, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment, ça nous donne une certaine liberté qui pour un artiste ou un créatif est vraiment, a vraiment beaucoup de valeur, quoi.
Ouais, une indépendance aussi.
Totalement.
On parle de choses un peu abstraites, de collaboration entre artistes, etc. Mais concrètement, du coup, qu'est-ce qui a découlé là déjà sur les deux ans d'existence de ce collectif d'où Mantra Records? Il y a des EP, il y a des événements. Qu'est-ce que vous...
Alors, oui, il y a plusieurs choses. Je pense que Colin, je sais pas ce que t'en penses, mais on peut commencer par parler du salon.
Salon, ouais. Avec plaisir. Ouais.
Super le salon. Enfin, c'est excellent. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous.
En fait, faut voir que. Bon, peut-être Colin, ça sera plus à même d'en parler parce qu'il était là physiquement pour le salon.
Carrément. Je prends le salon. Du coup, le salon, en fait, ça a découlé d'une idée qui est venue de Tom et Flo. Pendant le Covid, enfin vraiment au tout début, où on s'est dit, en fait, on avait déjà envie de faire un peu des captations, donc vraiment vidéo et montrer un peu les artistes. Et en fait, au moment où les premières restrictions ont été annoncées, on s'est dit que vraiment il fallait prendre l'opportunité de continuer un peu notre art. Et on s'est dit pourquoi pas, en fait, faire des captations, faire un peu. En fait, la première idée de base, c'était de faire des concerts pour les gens chez eux.
Ouais.
Et du coup, on a pris un peu le mouvement assez rapidement. On s'est dit, allez, let's go. On prend plusieurs caméras, on crée un concept et on invite des. Premièrement, sur les premières éditions du salon, on peut le voir, c'est quand même beaucoup d'artistes qui étaient du label à la base.
Ouais.
Mais on a eu des guests même au premier salon et puis au deuxième après complètement. Mais on s'est dit, c'était vraiment le format qu'on voulait. On a voulu créer un univers. Donc se dire faire un concert dans des endroits un peu atypiques. Donc on a créé le Salon du Mantra, un peu avec son identité, un endroit un peu chaud, qu'on emmène dans des endroits un peu froids. Enfin, je sais pas si ça parle.
Oui, et c'est un salon fauteuil, etc., hyper confortable. Et derrière, le décor, c'est des lieux qui ont l'air anciens, désaffectés, etc.
C'est ça, ouais. Complètement. Et du coup, on s'est dit, on veut amener notre univers là-dedans et amener vraiment un salon où les artistes peuvent vraiment déployer leur art. Et voilà, et nous, on fait une captation et on met sur YouTube. Et voilà, c'était un des projets vraiment qui était phare du collectif.
Ça, c'est une vitrine pour les artistes qui est excellente.
Ouais, exactement. C'est vraiment cette idée de vitrine qu'on a là-dedans. En fait.
Une carte de visite pour montrer. Et pour le public, moi, je trouve que c'est aussi un moyen de découvrir des artistes. Je ne sais pas où est-ce que vous allez chercher tous les artistes qui participent à ça, mais c'est des petites découvertes, des pépites. Enfin, je trouve que c'est très, très chouette.
C'est cool.
Il y a d'autres. Il y a des événements qui sont organisés aussi avec Do Mantra Record.
Alors, il y a déjà eu quelques événements qui ont été organisés. Et là, on a eu l'opportunité de récupérer donc le Lavoir à Lyon, là.
Ouais.
Où on va faire une résidence pendant une semaine et ça va se finir par un concert. Donc, Colin, tu veux parler de Lavoir un peu?
Ouais, bah avec plaisir. Le Lavoir, comme tu l'as dit, on fait une résidence pendant la semaine. Donc, c'est vraiment artistiquement, c'est pour tester un peu nos projets. Et puis, en fait, on a eu un accord avec le lieu. Donc, ce serait de faire une soirée un peu plus électro. Donc là, ce serait un peu techno house sur la line-up. Et aussi, au début de soirée, de montrer un peu aussi les artistes de Do Mantra. Donc, ça sera plus un concert un peu organique. Donc, là, vraiment, c'est un format un peu concert au début. Mmh. Et puis, voilà, une soirée qui, franchement, qui décline un peu le catalogue aussi.
Ouais.
Et qui amène vraiment vers un aspect plus électronique à la fin. Donc, voilà, c'était le projet. Puis, pareil, en fait, moi, je trouve que ça fait un peu référence aussi parce que. Au salon, en fait, parce qu'on se retrouve dans un lieu un peu atypique à Lyon et on sort aussi un peu de la Drôme, de là où on a démarré. Et je trouvais que c'était un endroit assez atypique et franchement, ça va faire vraiment plaisir si on peut. Enfin, c'est pas si, mais c'est l'organisation de l'événement va être vraiment, vraiment cool en tout cas.
Et c'est un salon en live.
Exactement. Bien dit. Franchement, c'est un peu l'idée.
Très bien. Et il y aura une captation aussi?
Alors, une captation qui sera peut-être moins.
Pas forcément.
Moins grande que ce qui se met en place dans les salons.
Ouais.
Mais en tout cas, ça sera en plus, ça sera plus le moyen de vivre l'expérience. L'expérience Do Mantra, en tout cas, pour une soirée. Parce que c'est vrai qu'on en a fait déjà. Des événements, on en a déjà fait dans la Drôme, en tout cas. C'est super bien passé. Et on s'est dit que là, il fallait qu'on aille voir un peu ailleurs aussi. Et c'est un peu l'occasion de mixer un peu tous les projets.
Oui, c'est vrai qu'on en fait,
l'idée, c'est de ramener. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est de ramener un peu le public avec nous, en fait. Parce que c'est vrai que ces salons, il y a quelque chose de très personnel parce que tu te retrouves juste avec le groupe. Mm-hmm. Et là, en fait, on aimerait aussi pouvoir un peu représenter le public.
Ouais.
Et je pense qu'on va avoir cette opportunité-là à l'avoir. Ça va être sympa.
Votre fief, c'est effectivement à Cré, dans la Drôme.
Exactement.
Est-ce que. Toutes les rencontres physiques que vous avez, c'est là-bas, mais j'imagine que ce collectif qui a commencé à travailler à distance, c'est encore comme ça que vous travaillez aujourd'hui, ou vraiment vous êtes installé à Cré définitivement?
Non, c'est... en fait on est sur Discord surtout.
Ouais, c'est ça.
Non, ouais, en fait la Drôme, en fait, j'étais déjà allé faire un tour dans la Drôme.
Oui, j'ai grandi pas loin de Cré.
T'as grandi dans la Drôme, d'accord. Mais tu sais, c'est un peu genre cette havre de paix hippie, tu vois. Donc c'est un bon endroit juste avant de partir à la guerre pour aller te préparer, je pense.
Ouais.
Et c'est un peu ce qui se passe, en fait. On se retrouve un peu là-bas tous ensemble, on prépare des trucs, puis après on se redispatch, en fait. Mais sinon, dans le quotidien, tout se fait sur Internet.
Ouais, tout peut se faire à distance aujourd'hui. Très bien.
C'est vrai que ça nous permet de se rencontrer, quoi. Autant dans la Drôme que les événements qu'on a fait, parce qu'on a fait même un festival l'électronique qui était en Savoie, par exemple, à la Station des Arcs. En fait, ça nous permet à chaque fois de nous retrouver tous ensemble pour les événements. Mais c'est vrai que la Drôme, c'est le lieu un peu QG où quand on se retrouve, on prépare tous les événements. Ouais.
Très bien. Comment est-ce qu'on retrouve justement ces événements, ces sorties et puis ouais, toute l'actualité de Doux Mantra Record?
Alors donc sur tous les réseaux sociaux de base, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, bon c'est un peu différent mais voilà, et on a un site internet aussi où tu peux retrouver ce genre d'actualité.
Et le YouTube, voilà quoi. Et le YouTube avec les salons, ouais. Mais ouais c'est de partout, c'est Doux Mantra, D-O-U-X, Mantra plus loin, M-A-N-T-R-A, Doux Mantra.
Et pourquoi justement Doux Mantra?
Alors tu veux raconter ou pas? En fait, je suis curieux de savoir quelle histoire tu connais, tu vois.
Moi, je connais l'histoire, mais nous, on l'a fait évoluer. Mais après, si toi, tu peux raconter la base, c'est plus intéressant.
Ouais, dans la base, en fait, ça vient d'un groupe qui s'appelle Electric Wizard, en fait. Je sais pas si tu connais ce groupe.
C'est rien, mais...
Ça te dit rien. Bah écoute, ils ont un album qui s'appelle Dope. Throne, tu vois, c'est le trône de drogue ou un truc comme ça. Et dans une de ses paroles, il parle d'un truc qui s'appelle le Doux Mantra, le mantra de l'apocalypse. Donc en un mot, Doom et mantra, tu vois ce que je veux dire?
Ah,
Doom,
d'accord.
Mantra. Et je me suis ramené avec ça en mode, ouais, les gars, Doom Mantra, Satan, tu vois. Et on m'a un peu dit, ouais, il faut faire en mode plus cool. Puis ils sont pointés avec Doom Mantra. Et d'un coup, en fait, je trouve que c'est mieux parce que ça peut parler à un public un peu plus large, quoi.
Ouais.
Que...
Ah bah on s'est dit qu'on allait mettre le doux à la place, un peu le franciser, ouais. Et rendre ça un peu plus doux et plus existant.
Et il y a quand même ce félin hurlant comme logo.
Ouais, qui représente un peu la base des choses, et ça nous représente aussi, mais c'est vrai que ça représente aussi un peu notre catalogue, genre un peu éclectique, il y a du doux, il y a du moins doux, et c'est ce qui nous fait un peu vivre et nous représente, quoi.
Très bien. Bon, ben, j'invite tous nos auditeurs à aller vite faire un tour sur vos réseaux sociaux et puis sur votre page YouTube pour découvrir le salon notamment. Et ça permet de découvrir tous les artistes de ce collectif. Ouais. Merci beaucoup, Colin et Florent, d'avoir passé ce temps avec nous.
Eh ben, merci à toi.
Et au plaisir de vous retrouver. J'ai noté dans mon agenda le 4 juin à Lyon au Lavoir Public.
Eh ben, écoute, t'es le bienvenu. Et on sera avec nous en backstage boire des bières.
Avec plaisir. À très bientôt.
À très bientôt.
Ensemble sur Calade.
Allez, bah, je vous propose d'écouter d'autres artistes du label, du collectif Doux Mantra Record. Ne disons pas label. Voici Maliao sur Calade avec Pink Past. Yeah. Maliao sur Kalad avec ce titre qu'on vient d'entendre, Pink Past.
Ensemble sur Kalad.
Le coach.
Et avant que vous me quittiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose.
Oui, il est l'heure de retrouver le coach. Bonjour, coach.
Salut, gamin.
Vous allez bien?
Comment ça va?
Mais en forme, ravi de vous retrouver. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Ah bah t'as vachement bien écouté la semaine dernière alors.
Ah pardon.
J'avais dit la semaine dernière, tu sais, j'avais réveillé les vieux traumas en parlant des devoirs, mais il y avait de quoi faire de chronique et on devait parler cette semaine des devoirs en particularité pour les enfants qui sont porteurs de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Oui. Ce qui était peut-être ton cas du coup des troubles de l'attention.
C'est bien possible, oui.
En tout cas, pour les enfants qui sont porteurs de ces troubles de l'attention, autant dire que les devoirs, ça peut vite devenir un cauchemar, à la fois pour les enfants, hein, et puis bien sûr pour les parents. Alors, avant de vous donner des pistes pour rendre ces temps de devoirs moins compliqués, nous allons essayer de comprendre pourquoi les devoirs peuvent devenir un enfer pour les enfants avec des besoins particuliers. Les enfants avec un trouble de l'attention ont souvent besoin de compenser leurs difficultés à l'école pour suivre le rythme de la classe. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et cette compensation, elle a un coût en énergie qui est très important pour eux. Cela crée des tensions intérieures et ces tensions, elles ont besoin de s'apaiser et de se résoudre. Souvent, les enfants avec un trouble de l'attention attendent de ne plus être à l'école pour relâcher ces tensions. Mais parfois, ils sont obligés de relâcher à l'école quand ils saturent trop pour pouvoir tenir jusqu'à la fin de la journée. Alors, ce qu'il faut comprendre, mes louloutes, c'est que tous ces efforts supplémentaires d'adaptation, ça coûte beaucoup d'énergie, à la fois physique et psychique. Les bambins sont épuisés quand ils rentrent à la maison. Et là, enfin, ils peuvent relâcher les tensions. Mais au lieu de leur foutre tranquille, à peine le goûter avalé, on les colle au devoir. Bah, sauf qu'ils n'ont plus de jus, les gamins, avec des troubles de l'attention. C'est mort. Alors ils entrent en résistance parce qu'ils ont juste envie qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse récupérer de tous les efforts fournis pour se contenir en classe, pour ne pas trop bouger sur sa chaise, pour ne pas trop intervenir à tort et à travers et parler. Bref. C'est souvent à ce moment-là que commence le bras de fer. Les gamins n'ont plus de ressources pour se concentrer sur les devoirs et les parents, voulant être de bons parents, on ne peut pas leur en vouloir, doivent batailler pour que le petit se mette au travail. La galère. Comme je vous le disais la semaine dernière, tout cela n'a pas de sens. C'est traumatisant pour tout le monde et c'est même contre-productif. Si vous avez des enfants qui ont des troubles de l'attention, d'autant plus s'il y a de l'hyperactivité associée, voici quelques règles et conseils qui pourront vous aider. Prévoyez au retour de l'école un temps formalisé de déchargement des tensions. Le goûter, ça n'est pas suffisant pour décharger. Il faut que l'enfant puisse avoir une activité physique, une activité corporelle où il peut se mettre en mouvement. Et si vous le sentez trop tendu, un câlin bien appuyé, bien réconfortant, où il vous raconte sa journée, peut avoir des effets spectaculaires. Deuxièmement, sortez de l'idée que prendre ce temps est perdre du temps. Ce temps consacré à faire tomber la pression intérieure de votre enfant est bien moins important que le temps et l'énergie que vous allez gaspiller pour vous mobiliser après si vous ne faites pas le nécessaire. La règle d'or pour les enfants avec troubles de l'attention et parfois hyperactivité, c'est pas de devoir les jours complets d'école. Ça veut dire souvent les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Cela doit se négocier avec l'école ou avec le collège dans l'intérêt de votre enfant. Il vous dira merci, ainsi que l'ambiance familiale générale. Normalement, avec les devoirs donnés à l'avance, votre enfant peut faire le travail du lundi et du mardi, le week-end, plusieurs fois si nécessaire, en séance de 40 minutes maximum. Et le travail pour le jeudi et le vendredi sera fait le mercredi ou le mercredi après-midi si l'enfant est au collège. Ouais. Votre enfant trouvera vite son intérêt dans cette organisation et il est tranquille les soirs d'école. Et si jamais les professeurs donnent du travail du jour au lendemain, eh bien prenez sur vous de retarder la réalisation du travail au jour de devoir suivant, c'est-à-dire le week-end ou le mercredi. Parce que d'abord, il n'y a pas péril en la demeure, et ensuite, les professeurs comprendront que c'est dans l'intérêt de votre enfant. Il est important de respecter les soirées de répit de vos enfants, même si vous angoissez car vous avez peur qu'ils ne réussissent pas une évaluation s'ils ne la révisent pas la veille en soir. Ça aussi, ça sert à rien. Un enfant avec trouble de l'attention ne retiendra rien de plus après une journée d'école. C'est seulement pour vous rassurer vous et vous donner l'impression d'être de bons parents d'élèves. Vous allez le mettre en difficulté pour aucun bénéfice supplémentaire sur ses résultats. Vous allez seulement augmenter sa fatigue. Un dernier conseil, mes louloutes, avant de se dire au revoir. Faites-vous confiance. Vous connaissez vos enfants. Prenez en compte leur niveau de fatigue et d'épuisement psychique. Et sachez prioriser entre les devoirs et l'équilibre de votre enfant. Et surtout, méfiez-vous de vos propres conditionnements sur la scolarité. On croit parfois bien faire. On croit savoir ce que les enseignants attendent de nous, parents. Or, il suffit parfois de parler avec les enseignants de vos enfants sur les difficultés que vous rencontrez pour trouver des solutions et une organisation adaptée à vos enfants.
L'importance du dialogue, tout simplement.
Toujours, mon gamin, toujours, toujours.
Très bien, merci beaucoup, coach, pour ces conseils.
Et moi, je vous souhaite une bonne semaine, mes louloutes. Et donc, si vous appliquez les conseils du coach, pas de devoir ce soir.
Très bien, on va en profiter. Merci beaucoup, à très bientôt.
Salut!
Ensemble sur Calade.
Allez, c'est cool, ça, pas de devoir ce soir. Tiens, de la musique, on écoute The Big ID, un morceau qui s'appelle YY, juste avant de retrouver notre rubrique littéraire. On vient d'entendre, ça s'appelle The Big ID, la grosse idée tout simplement. Le morceau c'était YY et tout de suite il est l'heure de parler littérature.
Ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Et c'est Bertrand Lamur qu'on retrouve pour nous parler littérature. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ça va bien en forme ?
Eh bien, ça va bien. Bah, oui. Ouais. Avec un jour comme ça, il fait beau, il fait chaud. Ouais. On va pas se plaindre.
Non. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, j'avais envie, justement, puisqu'on parle de chaleur et autres, j'ai eu un gros coup de cœur sur un auteur marocain. Et je me suis dit, en fait, il y a beaucoup d'auteurs marocains que j'aime bien. Mmh. Et que c'est peut-être le moment de les mettre en avant ou d'en parler, simplement. Littérature marocaine. Alors, c'est vraiment, on est par le petit bout de la lorgnette. Hein.
Ouais.
Et c'est tellement vaste. Mais alors c'est vrai que dans la littérature contemporaine ou dans les auteurs contemporains que l'on connaît bien, mais effectivement il y a une auteure qui revient souvent, qui est Leïla Slimani. Leïla Slimani, à qui on doit Chansons douces et puis surtout son dernier Le pays des autres, qui est très intéressant parce que ça évoque le Maroc du temps des Français et après les Français. Elle vient de sortir le tome 2 d'ailleurs du Pays des autres. Très belle fresque, très belle écriture, et aujourd'hui c'est un petit peu entre guillemets l'ambassadrice de cette culture marocaine, même si elle vit depuis longtemps en France. Alors, derrière Leïla Slimani se cachent évidemment beaucoup d'auteurs. Je vous avais déjà parlé il y a quelque temps de Rachid Benzine. On avait évoqué entre autres son dernier, qui était Voyage au bout de l'enfance, qui est un texte très poignant sur un petit garçon qui était obligé d'accompagner ses parents en Syrie et tout ce qui va avec. Donc c'est un auteur très intéressant. Et puis Rachid Benzine, il est auteur, écrivain, mais il est aussi c'est quelqu'un qui est islamologue, qui est philosophe, très très intéressant. Il y a une jeune femme, enfin une jeune qui est plus trop jeune, mais enfin en tout cas qui n'a plus 20 ans, on va dire, qui est une très belle écriture. C'est Samira El Ayachi. Donc Samira El Ayachi, elle publie aux éditions de l'Aube. Et alors elle a déjà écrit plusieurs titres, hein. Le premier titre qu'elle avait écrit, c'était en 2013, qui était un premier roman qui s'appelait 40 jours après ma mort. En fait, c'était un très très beau texte où l'histoire d'un homme qui vient de décéder et qui entend évidemment tout ce qui se dit autour de son corps entre guillemets mort. Donc évidemment, elle utilise ce stratagème pour montrer ce que l'on dit, ce que l'on pense une fois que les gens sont morts. Et là, évidemment, on découvre beaucoup de choses. Avec une écriture très fluide, il y a beaucoup d'émotions sur la famille, sur l'univers. Donc évidemment, elle vient du Maroc. Donc elle a cette double culture. Moi, souvent, j'assimile ça avec une grande richesse. Je trouve ça extraordinaire d'être d'une double culture. Et en même temps, on sait comment ça peut être très compliqué, puisque quelque part, on est d'une double culture et parfois, on n'est d'aucune culture parce que c'est très dur de s'assimiler dans un territoire ou dans un autre. Mais en attendant, ça, pour la romancière qu'elle est, c'est évidemment source de beaucoup d'idées. Et c'est entre autres le cas de son dernier, qui est Le ventre des hommes. Alors Le ventre des hommes, c'est son dernier livre, toujours aux éditions de l'Aube. Et là, elle revient, alors c'est un peu un hommage au père. Le père de Samira El Ayachi est venu, comme beaucoup beaucoup de Marocains et globalement de Maghrébins, travailler en France. Et lui, il est allé travailler à Lens, donc dans les mines de charbon du nord de la France. Donc des conditions assez dur, assez compliqué. Et à travers son père, elle fait un parallèle entre une jeune femme, Anna, qui aurait pu être un peu elle, et qui est institutrice. Et les deux, dans leur univers, dans leur espace-temps, vont devoir affronter des situations qui sont dures. Lui va devoir affronter le problème des mines, le problème de la reconnaissance. Pardon. Ouais. Et de l'autre côté, Anna, qui est institutrice, ouais. Le problème de la hiérarchie, de la reconnaissance aussi de la hiérarchie, des règles administratives qui sont sans fin. Donc c'est un très beau portrait d'abord du père.
Ouais.
Et puis effectivement de la fille qui institutrice, donc qui a déjà qui est lettrée, qui a réussi entre guillemets, qui a passé des diplômes, ce qui n'était pas le cas du père. Donc il y a une reconnaissance. Et en même temps, de voir que c'est pas si évident que ça, toujours avec cette double culture. Donc c'est vraiment une auteure qui est à suivre, parce que Samira El Hayashi, voilà, il y a une vraie émotion. Et donc, quand on parle de vraie émotion, je voulais surtout en venir à Abdellah Taïa.
D'accord.
Alors Abdellah Taïa, il est connu à la fois comme écrivain, mais aussi comme cinéaste. Et là, quand on parle d'émotion et surtout quand on parle d'écriture, on a un vrai écrivain. On est bien d'accord, ceux que j'ai cités précédemment sont aussi des vrais écrivains.
Exagérons. Oui.
Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
Ah, vous souhaitez, oui.
Alors, Abdellah Taïa, il vient de sortir un livre qui s'appelle « Vivre » aux éditions du Seuil. Et alors, Abdellah Taïa, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis une dizaine d'années. Il avait commencé avec un livre qui avait été très, très, très intéressant, très fort, qui était « Le jour du roi ». Il avait eu le prix de Fleur, d'ailleurs, en 2010 pour ce titre. En fait, « Le jour du roi », c'est un jour où... on a le roi, à l'époque c'est encore Hassan II, on est en 1987, et Hassan II, en monarque éclairé, ou pas, faisait des tournées, et là il se trouve dans la ville de Salé, qui est la ville donc de Abdellah Taïa, et ces deux hommes qui sont là, qui voient cet homme inaccessible, quoi, il est sur son cheval, etc., et donc il y a tout un univers qui va se créer là-dessus. Donc très très touchant. C'est le pollen, je suis désolé. Et puis du coup on a eu un autre titre qui était Celui qui est digne d'être aimé en 2017, qui est autour d'un homme, Ahmed, qui a 40 ans et qui a du mal à se positionner dans la vie par rapport à ses parents. Et puis aussi par rapport à son homosexualité, être homosexuel au Maroc, très compliqué. Et Abdellah Taïa a fait son coming out il y a quelques années. Et justement, il va apporter aussi cette voix-là. Donc aussi cette voix singulière qu'il va avoir. Et dans Celui qui est digne d'être aimé, on a justement ce côté-là de cet homme qui a du mal à se positionner. Alors évidemment la double culture, évidemment son orientation sexuelle aussi. Et donc le dernier, Vivre à ta lumière. Vivre à ta lumière, un titre pareil d'Abdellah Taïa, on revient un petit peu, on imagine sur son histoire. C'est un texte qui est absolument magnifique pour évoquer encore le Maroc et surtout le destin d'une femme. Alors on a cette femme qu'on va suivre à peu près sur... plus d'une cinquantaine d'années, qui est Malika. Et là, on a vraiment toute cette beauté, en même temps, cette dureté du Maroc. Malika est une femme qui est tombée amoureuse, qui a eu la chance, son père a accepté qu'elle épouse son amoureux. Alors, évidemment, c'était aussi pour la, entre guillemets, la virée du foyer, parce que sa mère était décédée, la deuxième épouse ne l'aimait pas trop, ce qui est assez classique. Et Malika va vivre, du coup, dans sa belle famille. Et à un moment donné, sa belle-famille propose que cet homme, son nouveau mari, pour gagner de l'argent, fasse la guerre d'Indochine. Ce qu'il va faire, et il ne reviendra pas. Et Malika, à 20 ans, elle est veuve, et elle a un destin. C'est soit d'être l'esclave, du coup, de la famille, de sa belle-famille, soit, eh ben, prendre le large et prendre la rue. Ce qu'elle va faire, parce que elle est réduite un peu en esclavage. Et là, ce destin de femme va commencer, et ce destin qui est entre une femme qui va être presque sans abri à un moment donné, qui va réussir à trouver un mari, à construire une famille, 9 enfants, et qui va réussir à force de dureté, à force de, on va dire, d'abnégation, à les élever, à pouvoir avoir une maison à Salé, et essayer de donner à ses enfants un but. Tout ça au milieu quand même d'un Maroc qui est en train de bouger, un Maroc qui était français, un Maroc où les Français sont présents. À un moment donné, elle a une fille et elle refuse que cette fille devienne la bonne d'une Française et parte en France faire la bonne, en disant « tu mérites mieux que ça, ma fille ». Ça va pas toujours être évident. Et au milieu de tout ça, on a un garçon qui est le 8e et qui est parti en France. On comprend que ce garçon est certainement homosexuel, il y a certainement un lien avec Abdellah Taïa. Ouais. Et en fait, elle en parle parce qu'un jeune homme, à un moment donné, vient chez elle. Il sort de prison et il l'agresse, ou il veut l'agresser pour avoir du fric, pour avoir de l'or. Et là, elle va essayer de le raisonner et essayer à travers ce jeune homme qu'elle connaît, en fait, de comprendre, en fait, la vie de tous ces jeunes qui sont un peu perdus. Et là, on retombe sur ce Maroc qui est un pays magnifique, bien sûr, mais un pays où on a la rigidité des traditions, la rigidité d'un pouvoir politique, et c'est très, très dur d'en sortir. Donc « Vivre à ta lumière » d'Abdelataïa est un livre absolument somptueux, d'abord pour l'écriture et puis aussi pour tous les sentiments qu'il en ressort, où on a tout un panel, effectivement, que ce soit Malika, que ce soit ses enfants, que ce soit aussi Monique, qui est justement cette Française qui voulait emmener sa fille faire la bonne à Paris, qui est aussi un très beau portrait de Française qui aime le Maroc, mais qui est Française.
D'accord. Et ça vient tout juste de sortir, non
Et ça vient, Mathieu, tout juste de sortir. Tout à fait, aux éditions du Seuil. Très beau texte. Et puisque j'ai une minute, vu que tu ne m'interromps pas...
Ah non, il nous reste 30 secondes.
J'ai essayé. Donc voilà, pour vous dire juste quelques exemples de titres marocains où il y a de quoi faire. Et surtout, il y a quand même cet amour du Maroc. Mmh. Et toujours cette double nationalité, ce double monde, pas toujours facile à gérer.
Très bien. Merci beaucoup,
Bonne
Bertrand.
Bonne lecture à tous.
Bonne lecture, à très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Ensemble sur Calade.
Allez, c'est la fin de notre émission Ensemble sur Calade. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À tout bientôt. Ciao, ciao.